Stop, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
C'est ici que ça s'est passé en fait.
MJV,
c'est vous qui représentez le système.
Hello. Bonjour à tous, démarrage en trombe de l'instant M.
C'est énorme ce qui s'est passé, les chéris.
Vous êtes en direct, allez-y.
7 millions de Français ont voté à la gauche de la gauche et sans chercher à les victimiser ni à discréditer l'ensemble de la presse, force est d'admettre qu'il n'est pas un média dans le paysage audiovisuel français dans lequel ils puissent pleinement se reconnaître. Dans le même temps, cette gauche-là a démontré qu'elle maîtrisait mieux que toute autre formation politique les leviers de la nouvelle mécanique médiatique. Il en résulte la création d'un média numérique, ce soir, baptisé Le Média, avec un Le et un M majuscule, nom qui conjugue arrogance et auto-dérision, volonté de tout écraser comme d'avancer masqué, non follement ambigu comme les questions que d'aucuns se posent sur son contenu avant de l'avoir vu.
L'instant M. Sonia De Villers sur France Inter.
Bonjour Sophia Chikirou.
Bonjour, comment ça va?
Moi ça va très bien. Et vous aussi. Vous êtes au milieu de la peinture, des perceuses, c'est ça?
Ça va pas ce matin, mais...
Vous enchaînez les conférences de rédaction et les séances de bricolage?
Voilà, c'est un peu ça pour tout le monde.
C'est un peu ça pour
journalistes
tout le monde.
Journalistes compris.
Alors, vous êtes fondatrice de Le Média, Le Média, lancé tout à l'heure à 20h. Doit-on encore vous présenter comme directrice de la communication ou conseillère de Jean-Luc Mélenchon?
À ce jour, non, puisque j'ai travaillé comme directrice de la communication de la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon, puis de la campagne législative, et je n'ai plus aucun contrat avec la France Insoumise depuis le mois de juin.
Depuis le mois de juin
2017, ouais.
C'est-à-dire qu'en même temps, le 29 août, vous êtes à l'université d'été de la France Insoumise, vous animez une conférence qui fait date, faut-il dégager les médias. À la rentrée, vous accompagnez Jean-Luc Mélenchon lors d'un prime time sur France 2, donc vous n'avez plus aucun contrat, plus aucune mission au sein
Je n'ai plus aucun contrat, plus aucune mission, si ce n'est une que je me donne à moi-même, c'est-à-dire d'accompagner un mouvement auquel je crois, donc quand je peux faire une action engagée du type, alors je distribue pas de tracts en ce moment, mais je peux participer à des événements du mouvement de la France Insoumise, bien sûr.
Je vous pose la question, puisque vous revendiquez haut et fort votre indépendance financière et économique, il est normal qu'on interroge votre indépendance politique, justement.
Tout à fait.
Donc, manifestement, vous êtes à la fois patronne et fondatrice d'un média et en même temps toujours
active.
En même temps, citoyenne engagée.
Citoyenne
et active dans un mouvement politique,
ce qui
déontologiquement et journalistiquement peut poser des questions.
Non, je ne peux pas, parce que moi, je ne suis pas journaliste. Hein. Il faut quand même me rappeler que je ne suis pas journaliste. Mais je suis une citoyenne engagée. C'est fondamental chez moi, c'est mon ADN.
Alors, vous n'êtes pas journaliste, vous devenez néanmoins fondatrice d'un média. Donc, vous vous posez des questions éthiques et déontologiques que se posent les journalistes.
Tout à fait. Et une des questions, des toutes premières questions qu'on s'est posées, c'est comment on garantit l'indépendance de la rédaction.
Éditoriale.
Exactement. Enfin, éditoriale. Ils s'inscrivent quand même dans une ligne éditoriale qui est celle qui est définie par le média depuis son lancement, c'est-à-dire un manifeste qui a posé le progressisme, l'humanisme, l'antiracisme et le féminisme comme ses valeurs fondamentales. Donc c'est quand même un champ culturel qui est défini.
Absolument. Et indépendance éditoriale vis-à-vis de la France insoumise.
Exactement.
De ces propositions, ça vous le garantissez comment?
Je peux vous assurer qu'il n'y a pas de comité politique de la France insoumise qui se réunirait tous les jours, une fois par semaine, pour dire aux journalistes ce qu'ils doivent faire. Les journalistes sont inscrits dans un manifeste. C'est vraiment l'idée du média. C'est des journalistes engagés qui assument d'avoir des opinions qui ne mentent pas à ceux qui les écoutent, qui les observent, qui les regardent. Voilà, c'est-à-dire ne pas avancer masqué, justement. C'est-à-dire entendre des journalistes vous dire qu'ils sont neutres, qu'ils ont une objectivité, alors qu'ils vous parlent sans cesse des mêmes sujets, par exemple la dette qui pèse, etc., et que c'est une vision du monde, une vision ultra-libérale du monde, que d'accuser la dette publique comme principale cause des méfaits économiques, etc., c'est une vision du monde. Nous, on demande à nos journalistes d'être honnêtes sur ce qu'ils sont, d'où ils partent.
Alors, en même temps, dans vos relations et les soupçons de connivence et de militantisme vis-à-vis de Jean-Luc Mélenchon, vous avez une certaine autodérision et pas mal d'humour. Vous avez fabriqué des pastilles de teasing qui ont servi à faire connaître le média avant son lancement.
Bonsoir, il est 20h. Bienvenue sur le journal de Canal Fi. Tout d'abord, des nouvelles de notre auguste leader. Après une nuit sans problème particulier, notre bien-aimé Jean-Luc a pris un solide petit déjeuner. La journée qui suivit fut égale aux précédentes, pertinente, efficace, moderne et lumineuse. International, au Venezuela, tout va plutôt bien, rien de particulier, les gens sont contents, on ne va pas y passer des heures.
C'est pas mal. Oui, c'est pas drôle. C'était notre soirée de lancement.
Vous dites que ce ne sera pas un média donc militant ou partisan, mais au moins un média, je vous cite dans vos récentes interviews, où l'on s'épargnera le Mélenchon bashing. Si vous cherchez du Mélenchon bashing, allez le chercher ailleurs, dites-vous. Allez le chercher sur TF1, France 2 et BFM TV. Vraiment?
Oui,
du
vraiment.
Mélenchon bashing?
Oui, complètement.
Vraiment?
Oui, oui, tout à fait. C'est du Mélenchon bashing permanent.
Qui a fait de Jean-Luc Mélenchon et de sa formation la première force d'opposition au gouvernement et à la République en marche? Qui? Pas les urnes, les médias.
Non, pas du tout. Vous vous trompez. Il s'est passé un acte fondamental et essentiel quand même à l'Assemblée nationale. Qui n'a pas voté la motion de confiance au gouvernement? Qui? Ça vous situe dans l'opposition.
Ça vous situe dans l'opposition. Et on prend la rentrée.
Voilà.
Passez les élections présidentielles. Passez les élections.
Qui est dans la rue le 23 septembre pour s'opposer aux ordonnances?
Prenons la rentrée, Sophia Chikirou.
C'est la FI. C'est une réalité politique. C'est-à-dire, c'est pas une construction, l'opposition.
Alors, je vous propose
Mélenchon n'est pas construit.
Non. Je vous propose pas une construction. Je vous propose des faits. L'histoire de la France, récente de la France insoumise, c'est une défaite électorale, c'est une défaite
dans les... victoire électorale.
Juste, laissez-moi parler.
Vous oubliez un certain nombre de choses.
C'est une analyse
que vous faites. Vous oubliez qu'ils sont passés devant le Parti Socialiste.
Il y a une grande déception quand même.
Il y a la déception, c'est celle de ne pas être au deuxième tour et de ne pas l'emporter naturellement.
Ça a été une grande déception.
Quand vous faites une compétition quelle qu'elle soit et que vous êtes sur la troisième ou quatrième marche, vous êtes déçu de ne pas être sur la première.
Mais ça a été une immense victoire médiatique,
Sophia Chikirou. Non, c'est avant tout une victoire politique.
Ça n'a pas été
C'est la France insoumise et le mouvement politique qui est passé devant le Parti Socialiste, qui était le parti hégémonique pendant plus de 30 ans. La France insoumise est passée devant.
Mais il me semble, moi, que les chaînes de télévision que vous citez n'ont pas été contre ça. Le moindre bon mot, la moindre sortie de Jean-Luc Mélenchon, ses sorties à l'Assemblée nationale, ses bons mots pendant les débats ont été relayés comme des événements. Ça a été un tambour médiatique phénoménal. La télévision n'a pas été contre Jean-Luc Mélenchon. Quelle victoire médiatique sur ce système télévisé.
En fait, je crois comprendre ce que vous voulez me dire. Mm-hmm. C'est-à-dire, est-ce que Mélenchon est un bon communicant? Oui, Mélenchon est un bon communicant. Mais ne niez pas, parce que sa communication est bonne, sa réalité politique. Et je pense que s'il est bon communicant, c'est parce qu'il s'appuie sur une réalité politique.
Vous émaillez ce lancement, je l'ai dit, de petit montage vidéo très comique. Vous partez à l'assaut de la forteresse de l'info dans un torrent de muscles et de testostérone emprunté à Stallone et Schwarzenegger. 10 secondes, you won't believe what's gonna happen. Dernier plan de ce clip, Sophia Chikirou, les logos des médias détenus par les capitaines de l'industrie et de la finance que sont Le Monde, CNews, Les Échos, BFM TV et Europe 1, qui finissent bombardés dans un grand brasier. Mm-hmm. Ça finit par des flammes partout.
Ouais,
drôle ça?
Oui, pour moi c'est drôle. Ce sont des parodies qui sont beaucoup utilisées sur les réseaux sociaux.
Faire cramer les médias, c'est drôle en ce moment?
Ça va arrêter.
Ouais.
C'est vraiment, il n'y a pas de lieu d'en... C'est une plaisanterie. Maintenant, si vraiment personne n'a d'humour là-dedans, notamment les médias qui se sentent tout de suite agressés, oh mon Dieu, ça va, deux minutes. C'est sur les réseaux sociaux, c'est une parodie, ça vise à faire rire, ça fonctionne, ça fait rire les gens, voilà.
Alors, critique du paysage média concentré aux mains de quelques puissants, des dangers que ça représente pour le pluralisme et la liberté d'expression, ça a été l'un des axes de campagne de Jean-Luc Mélenchon, vous l'avez même vous-même rédigé et travaillé sur ces dossiers au cours de la campagne. J'ai relu toutes vos interviews récentes sur vos rapports avec les médias, agressif et méfiant, en 2012, vous venez d'expliquer au Figaro, tout cela était calculé, nous n'avions aucune chance de percer en dehors d'une stratégie d'affrontement de la seconde peau du système que sont les médias. Est-ce que votre méfiance est toujours aujourd'hui le fruit d'une stratégie calculée, non plus pour percer, mais pour continuer d'exister?
Non, ma méfiance vis-à-vis des médias, elle est comme celle de la majorité des Français. Mmh. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que les médias ne sont pas pluralistes. Mmh. Beaucoup disent toujours la même chose. Qu'il y a une espèce d'entre-soi aussi médiatique qui nuit à la représentation et à la pluralité des idées et à la confrontation de ces idées. Et donc, cette méfiance, elle est pleine et entière. Et plus que jamais aujourd'hui, quand on voit l'évolution des médias, et il faut toujours regarder le modèle économique. La concentration des médias entre les mains de 9 milliardaires pose un problème. Mais pas seulement des médias, c'est-à-dire les médias entre les mains de ces 9 milliardaires. Les moyens de diffusion des médias, c'est-à-dire quand vous savez que SFR, Bouygues sont détenus par les mêmes, Niel, Drahi, etc. Quand vous savez que la publicité est entre les mains d'une vingtaine d'annonceurs.
Alors justement, parmi vos petits clips, vous nous avez présenté ces milliardaires et puis vous nous avez dit pourquoi pas vous ?
Martin Bouygues. Un honnête commerçant du BTP, il aime l'Afrique et les téléphones portables. Selon lui, tout n'est pas une question d'argent. Pas mieux. Bernard Arnault, fan du documentaire Merci Patron. Il rêve de conquérir le luxe et le cœur de Donald Trump. Un autre amoureux de la démocratie. Ils sont 9. Le 11 octobre prochain, nous vous dévoilerons le 10e. Soyez nombreux, car sans vous, il ne viendra pas.
Il viendra pas, c'est le média, principe fondateur, les socios. Vous vous dites les socios, vous prononcez le S?
Moi, je prononce le S parce que je parle espagnol.
Ah, l'espagnol. Donc c'est comme les actionnaires supporters des clubs espagnols, des clubs de foot.
Du FC Barcelone, voilà, par du exemple. Mais il y a aussi un club de foot français qui
L'en avant Guingamp.
Voilà.
Je suis incollable en foot.
C'est vrai?
Ouais, c'est vrai, je suis incollable.
On a le même fonctionnement, en fait.
Voilà. Donc, ce ne sont pas seulement des abonnés, ce sont des abonnés actionnaires qui ont des droits. Parmi ces droits, je vous en cite un, je peux participer aux consultations et voter pour le choix des programmes et des invités. Est-ce que ça n'a pas un nom, Sophia Chikirou, à savoir l'audience?
Nous, on n'a pas du tout procédé comme ça. Je vous donne un exemple tout simple. On a une émission qui est une conférence pédagogique. C'est une émission d'éducation populaire. Les socios ont été sollicités pour choisir les thèmes qu'ils auront à partir du mois de février. Ils ont choisi très massivement l'écologie. Et nous, nous suivons derrière et nous faisons en sorte de leur donner de la qualité et de répondre à leur attente.
C'est ça ma question. C'est jusqu'où, à partir de quand on n'est plus un média de l'offre et qu'on devient un média de la demande, et ça comporte des dangers qu'elle laisse terribles pour des journalistes, pour une rédaction, que de devoir plaire à ses actionnaires, quels qu'ils soient, y compris si ce sont leur public. Quel lien terrible ça peut être.
C'est vraiment une question que vous avez tout à fait raison, il faut se la poser. Moi, j'ai discuté avec les socios et je leur ai dit, on ne demandera pas à nos journalistes de faire ce qu'on veut. L'actionnaire ne doit pas intervenir dans les choix éditoriaux des journalistes.
C'est ça, un média a parfois le devoir d'aller contre
exactement.
Ses actionnaires, mais
et
même
donc,
contre son public, de le bousculer, de
donc,
le secouer, de le choquer.
Il faut le dire, il faut être pédago là-dessus.
Vous ne risquez pas d'être pieds et poings liés à ce système d'actionnaires
abonnés. Il faudra toujours
permettre
qu'il y ait un équilibre. En tout cas, moi, ce que je dis aux journalistes qui sont avec nous, c'est sentez-vous libre. Quand on est soi-même, quand on est sincère, quand on est intègre, en général, ça marche.
Pourquoi vous l'avez appelé le média? L'emploi du déterminant, hein, le...
C'est le média dont on rêve.
Quelque part, il prétend être l'essence du genre, donc c'est d'une arrogance dingue, c'est une morgue incroyable,
ouais.
Ou alors c'est très drôle, comme vous voulez.
Voilà, c'est tout ça à la fois, et en même temps, c'est le média, on est parti de le média dont on rêve. Il y a de l'autodérision, il y a de l'humour, il y a l'envie de provoquer toujours. Voilà, ça, pour le moment, ça nous va bien.
Et là aussi, d'avancer masqué, sans revendiquer forcément ce qu'on est avec ce titre qui est si
insipide et si vous faites une erreur, moi je ne suis pas d'accord.
C'est une question,
nous
quand on s'appelle le média, on ne dit pas ce qu'on est.
Mais on le dit suffisamment, on le dit à travers, ce soir, à travers le journal, les gens verront ce que nous sommes.
Le journal. Alors le média, ce sera un site riche de différents contenus, d'accord. Mais votre rendez-vous majeur, à l'instant M, je vous jure, on est tombé à la renverse, Sophia Chikirou, c'est un journal de 20 heures.
Bonsoir et bienvenue à tous. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi.
Bonsoir, bienvenue dans le 20h.
Là, on est sur TF1.
Elle
et
dit
France 2.
Le 20h. Hein.
Le 20h.
Elle est arrogante.
Très, très arrogante, elle avance masquée. C'est une blague, le 20h. Pour un média qui se veut à la fois numérique et au service de son public, vous restaurez la grand-messe à heure fixe.
Exactement.
Non, mais vous allez totalement à l'envers de l'histoire.
Et pas du tout.
Ah bon.
En fait, on ose.
Ah bah vous osez
faire
ce qu'on fait depuis les débuts de l'ORTF.
Mais on le fait pas avec les moyens des grandes chaînes, etc.
C'est pas une question de moyens, c'est une question que précisément c'est tout ce dans quoi le digital a mis un énorme coup de pied. La grand-messe à heure fixe devant laquelle il faut s'asseoir de manière bien passive sur son canapé.
Alors ça a mixte des deux. On propose aux gens, vous voulez un rendez-vous quotidien de l'info où vous êtes tranquille, vous pouvez le regarder en famille en train de manger ou ce que vous voulez, le moment où vous vous informez de la journée, on vous offre un 20h. Vous voulez le voir en replay, vous voulez le voir découpé, vous l'aurez sur les réseaux sociaux, en replay, découpé, etc. On se retrouve sur le net. C'est-à-dire que TF1 et France 2, la moyenne d'âge des téléspectateurs est assez élevée.
Oui.
Elle passe les 50 ans pour le 20h, d'accord ?
Pour le 20h de TF1 et largement les 60 pour le 20h de France 2.
Voilà. Moi, je pense que s'il y a un rendez-vous qu'on peut conseiller à des jeunes qui ont l'habitude, ou des moins jeunes d'ailleurs, qui ont l'habitude de regarder sur Internet et de s'informer sur Internet, la majorité des Français aujourd'hui s'informent sur Internet, c'est ce rendez-vous-là.
Donc présenté par qui ?
Eh bien, écoutez, ils seront plusieurs présentés. présentateurs, notamment présentatrices. Aude Rossigneux.
Qui est votre rédactrice en chef.
Alors nous, on a décidé d'organiser la rédaction différemment, parce que comme on veut tout faire différemment, on s'est dit, plutôt que d'avoir un ou une rédactrice en chef, on va avoir une espèce d'auto-organisation avec une rédaction en chef collégiale et tournante. En tout cas, elle assure la présentation du journal du lundi au jeudi. Et le vendredi, c'est Catherine Kirpak qui prend le relais.
Noël Mamère, ça interviendrait dans le JT ?
Oui, Noël Mamère reçoit une fois par semaine un invité qui l'interviewe sur des questions plutôt écolo, scientifiques, économiques. Et il démarre aussi.
Et c'est dans le JT ?
Oui, c'est à la fin du JT.
Vous envisagez de la pub ?
Oui, on l'envisage parce qu'il faut développer un modèle économique. À l'heure actuelle, pour notre lancement et pour la première année d'existence, les sociaux sont les investisseurs dans le média. À terme, il faut quand même qu'on développe plusieurs sources pour pouvoir durer, pour pouvoir équilibrer les choses et s'assurer une pérennité. Donc la publicité, on l'envisage, mais toujours avec les mêmes principes qui sont les nôtres. C'est-à-dire on ne veut pas avoir d'argent des grandes puissances financières et industrielles et on pense qu'on peut trouver d'autres annonceurs qui ne soient pas ceux-là.
Qui ne soient pas ceux-là et dont les pratiques, j'imagine, coïncident avec vos convictions. Je ne reviens pas sur votre tweet déplorant que les médias n'aient pas traité le double attentat frappant récemment Mogadiscio et tous les journalistes qui vous sont tombés dessus pour vous dire que...
J'avais raison, alors que le traitement avec 300 morts par les journalistes qui reprenaient tous la dépêche AFP, ce que tout le monde peut faire, parce qu'à la fin, on peut aussi dire aux gens, plutôt que de regarder la télé, prenez un abonnement à la dépêche AFP. Hein.
Oui, ça sera enfin, plus ils facile. Ont été quand même nombreux à vous prouver que...
Ils m'ont rien prouvé du tout. Je peux vous assurer qu'à New York, le New Yorker faisait exactement la même analyse que moi. Si vous voulez prendre un média étranger, plein d'autres médias ont fait la même analyse en disant en effet, il n'y a pas du tout le même traitement. Un attentat de cette ampleur-là, traité par les médias occidentaux, n'était pas traité au niveau du drame.
Alors comment vous allez faire, vous, pour traiter Mogadiscio ?
On s'est posé la question, figurez-vous, et le moment où c'est arrivé, nous, on a, pendant une semaine, on a contacté là-bas des associations, des médecins. On a retrouvé comme ça 5 personnes qui avaient été tuées lors de cet attentat. On a leurs photos, on a des témoignages de leur famille. Donc, on est capable de le faire même à distance.
Que vous n'avez pas les moyens d'avoir des envoyés spéciaux et des correspondants.
On a un premier correspondant. Notre premier correspondant est à Beyrouth. On a un réseau aussi qui est en train de se mettre en place et de se consolider de correspondants citoyens. Où parmi eux, il y a parfois des journalistes, des pigistes, etc. Et on essaiera de couvrir
parfois,
autant possible.
Parce que je reprends votre programme présidentiel, Sophia Chikirou, et vous disiez, vous insistiez sur le fait que se développe l'impression trompeuse que filmer, photographier, rendre compte des faits ne nécessite plus ni savoir-faire professionnel ni déontologie. Tout le risque du témoignage citoyen sur place sans avoir les moyens d'envoyer des journalistes chevronnés pour le faire.
Ouais,
vous ne risquez pas de tomber là-dedans ?
Non, je suis complètement d'accord avec vous. Encore une fois, vous posez les questions qu'on se pose et sur lesquelles on est extrêmement vigilant, justement. Il y a une chose qui est certaine. Le métier de journaliste, c'est un métier qui s'apprend, d'accord ? Mais c'est un métier. Nous, on propose à nos correspondants citoyens, non pas d'être journalistes, on ne leur dit pas « vous êtes des journalistes », c'est pas vrai. Donc c'est pour ça qu'il y a un journaliste qui est Serge Faubert, qui travaille à les former et qui propose un accompagnement. Et à chaque fois, l'information passe par un journaliste. Parce que c'est indispensable.
Merci Sophia Chikirou.
Merci à vous pour votre invitation. Merci.
Voilà, et le Média démarre ce soir avec son JT de 20h en direct sur Internet. Sur Internet. Le Média donc financé par les socios dont vous serez peut-être, puisque ça coûte 5 euros.